Chapitre 38. Georgia O'Keeffe. Le monde est une chair. Les vacances d'été filaient lentement. La semaine, Mona passait la plupart de son temps au centre aéré de Montreuil, mais peinait à trouver de nouveaux camarades. Non qu'elle s'isola tristement sans parler à personne, pas du tout. Simplement, Jade et Lily lui manquaient. Au centre aéré, les écrans étaient interdits, mais une bibliothèque bien fournie se trouvait à disposition. Mona s'y rendit et demanda candidement à l'agent municipal qui veillait sur les lieux « Est-ce que je peux écrire ?» C'était une question pour le moins incongrue, en tous les cas parfaitement inédite, mais rien ne s'opposait à ce qu'une jeune fille prît la plume pour se raconter ses propres histoires au lieu de lire celles des autres. Mona s'assit dans l'ombre d'un recoin, sortit de son sac un grand cahier à couverture rouge, un crayon à papier et une gomme. Il était temps pour elle de tenir son propre journal pour y coucher ses impressions, divaguer sur ses états d'âme et crier ses espérances. Elle voulut d'abord parler de la journée qu'elle vivait là, mais se rendit compte qu'avant d'arriver à la description du présent, il lui faudrait parcourir dans sa tête l'enchaînement des semaines rythmées par les visites en compagnie d'Henri, au Louvre, à Orsay, à Beaubourg. Demanderait-elle à son grand-père de l'aider en cas de doute ? Elle se dit qu'elle chercherait plutôt les réponses en elle-même. Elle ferma donc les yeux. Elle revit la fresque abîmée de Botticelli, Vénus, les Trois Grâces, Amour et la jeune fille qui accueillait son cadeau. Elle saisit son crayon et d'une calligraphie soignée posa ces mots « Dadé m'a d'abord appris à recevoir ». Avec l'air brûlant de juillet, les platanes de Paris avaient jauni. Tandis qu'elle marchait auprès de son grand-père, Mona nota le phénomène. Elle s'interrogea. « Où va le vert des arbres une fois qu'il est parti ?» Henri s'arrêta net. La question n'avait aucun sens d'un point de vue scientifique, certes. C'était toutefois une énigme qui résonnait profondément sur le plan métaphysique. Il scruta l'horizon en silence et enfin suggéra d'une voix calme et grave « C'est vrai cela, Mona. Vers quoi s'échappe le blanc de la neige quand elle fond, le rouge d'un volcan quand il s'éteint, le pourpre de l'amarante quand elle se fane, le brun des cheveux quand il grisonne, l'azur du ciel quand fuit le jour. Peut-être y a-t-il un paradis pour les couleurs. Je suis sûr qu'elles y chantent, qu'elles y tonnent et détonnent, qu'elles s'y bousculent et s'y entremêlent, et puis s'envolent, et puis reviennent. » À l'infini. Mona observa alors un énorme marronnier semblable à un géant.
« Bah, tu vois, Dadé, le jaune des feuilles, bientôt, avec l'arrivée de l'automne, il deviendra orange. Et si je le regarde très longtemps, ce jaune, peut-être que c'est dans mon esprit qu'il va s'écouler. Et peut-être même que le paradis des couleurs, c'est mon esprit, » s'écria-t-elle.
Elle souriait, emportée par sa trouvaille dont elle sentait l'irrésistible charme poétique. Mais son visage alerte et bonhomme s'affaissa soudain.
« Si je deviens aveugle, le paradis des couleurs, j'espère qu'il sera dans ma tête. »
Henri ne trouva rien à dire. Rien. Il la prit par la main et la conduisit au musée, la pupille noircie par la tristesse. Peut-être la peinture de Georgia O'Keeffe saura-t-elle les consoler. C'étaient des masses souples et sinueuses de couleurs traitées par un pinceau extrêmement précis. Il y avait, bien découpées et très lisibles, comme des vagues ou des langues de rouge, de jaune et d'orangé, lesquelles pouvaient donner l'impression d'une pure abstraction aux teintes de lave. La dynamique de la composition, rythmée par une espèce de succession statigraphique, basculait légèrement car les lignes de stratification, loin d'être rigides et strictement horizontales, ondoyaient et penchaient de la gauche vers la droite. Aucune raideur, aucun angle, seulement un serpentement, une houle lumineuse. Mais à y regarder plus attentivement, quelque chose comme un paysage se dessinait. La partie supérieure, dominée par les nuées de rose, de jaune et de blanc, évoquait un ciel embrasé par le crépuscule ou l'aurore. Au-dessous, une strie plus fine et bombée allant du noir au gris ressemblait à un massif rocheux, et ce massif bordait lui-même la moitié inférieure de l'œuvre, dans laquelle enflaient et se gondolaient des nappes vibrantes de couleur chaude, se délavant en quelques nuances de chair dans la partie vraiment basse. Or, ces nappes-ci rappelaient les nuées situées plus haut, en étaient l'écho, sans doute le reflet libre et comme déformé sur un plan d'eau. Et le sujet latent d'apparaître. On aurait dit un lac en fusion auprès d'une montagne sombre, sous un ciel convulsif et fruité. La semaine précédente, Mona avait sans mot dire longuement examiné la croix de Malevitch pour défier la patience de son grand-père. Mais de fait, cette interminable séance d'observation l'avait aguerrie. Sans forcer son caractère, sans le sentiment de se mettre à l'épreuve, elle parvint ainsi de nouveau à parcourir l'œuvre sans relâche ni lassitude. Georgia O'Keeffe est née aux États-Unis en 1887. C'était alors un pays très récent. C'était surtout un pays de très grande taille, en pleine expansion économique et culturelle. Georgia O'Keeffe était d'origine hongroise par sa mère et irlandaise par son père. À New York, elle eut pour professeur William Merritt Chase, le plus éminent des peintres de l'époque, une véritable vedette, mais qui demeurait complètement imprégné des conceptions esthétiques du vieux continent, en particulier de l'impressionnisme. « Et les professeurs, d'un côté on les aime énormément, glissa Mona, mais de l'autre, il faut bien arrêter un matin d'être leur élève. C'est ce qu'a compris Georgia O'Keeffe, je parie. » Oui. Elle se débarrassa volontairement de tout ce qu'elle avait appris pour repartir de zéro. Et ce faisant, elle appartient à ces quelques artistes qui ont révélé et construit l'esprit américain. Est-ce que tu saurais dire ce que c'est, Mona?
Pour moi, Dadé, en Amérique, tout est immense. Il y a des paysages avec des déserts, des lacs et des chaînes de montagnes. Et puis, il y a les énormes gratte-ciels de New York. Oui, tout est immense en Amérique.
Georgia O'Keeffe a justement peint aussi bien les villes dressées, colossales, que la nature ample et généreuse qui s'étale à perte de vue. Elle est une artiste de l'Amérique urbaine comme de l'Amérique rurale, et offre dans ses tableaux une juste mesure de la démesure.
En tout cas, là, c'est plutôt la campagne que la ville.
Il s'agit en effet du lac George, un site extraordinaire au pied des monts Adirondacks. Il avait déjà été figuré à de nombreuses reprises par des peintres américains du XIXe siècle, des paysagistes qui étaient aussi à leur manière des explorateurs, des aventuriers. Ils défrichaient des territoires sauvages pour leur rendre hommage par de grandes toiles et montrer les États-Unis comme un nouvel Éden. Or, vois-tu, ce que fait Georgia O'Keeffe s'inscrit dans cette lignée. Le lac George, le massif gris-noir qui s'y enfonce et le ciel qui le surplombe ne sont plus reconnaissables, car ils ont été soumis à une vive abstraction. Ils sont désormais des stries. Mais ces stries, par un jeu d'ondulation, par les nuances et les dégradés chromatiques, ressemblent à des brocarts doux et protecteurs, à des vagues chaleureuses.
La nature est transformée en caresse, on dirait.
Après avoir murmuré ces mots, Mona prit la main d'Henri et y planta vigoureusement ses ongles. L'entaille le fit souffrir et ouvrit une brèche dans son âme. Peut-être parce que cet apparentement entre la nature et des caresses renvoyait chez lui aux premières sensations de l'enfance, aux premières ivresses d'un souffle d'air tiède ou d'une odeur de printemps. Or, Henri n'accédait jamais sans un peu de mélancolie à ses très anciens souvenirs. Que c'était curieux pour lui de s'avouer qu'il avait eu l'âge de Mona. Que c'était vertigineux de se dire qu'un jour Mona aurait le sien. Comment s'exprimait-il à 10 ans? Comment s'exprimerait-elle quand elle en aurait 8 fois plus? Les lignes de Georgia O'Keeffe se mirent soudain à crépiter comme un brasier. La nature était devenue une caresse et la caresse un feu. Georgia O'Keeffe, reprit Henri, a surtout connu la notoriété en figurant des fleurs en cadrage très serré. Et un peu comme ce paysage de lac t'a fait penser à des caresses, la corolle des pétales, le pistil, la tige, telle qu'elle les peint, font songer à l'anatomie humaine, à une partie du corps. On parle alors de biomorphisme.
Mais oui, regarde Adé, tout ce qui est rouge et rose. En bas, on croit voir des langues ou des lèvres. Moi, j'aperçois trois bouches. Et en haut, dans les nuages, ça ressemble à quelqu'un qui serait allongé. Et on apercevrait à la fois ses jambes et aussi ses fesses. C'est trop drôle, Dadé, parce que moi, quand je tourne la tête vers le ciel, j'y vois souvent des choses, des animaux. Mais là, c'est sûr, il y a trois paires de fesses qui flottent au-dessus de la montagne. C'est génial, le biomorphisme.
Et Mona partit d'un éclat de rire. Henri se contenta d'un froncement de sourcils, faussement consterné, mais dut convenir que le commentaire, si puéril qu'il fût, visait juste. Et cela épargnait au vieil homme de devoir lui expliquer que les visions de Georgia O'Keeffe était très réputé pour ses allusions aux organes génitaux féminins. S'il l'avait voulu, Henri aurait pu en profiter pour expliquer que l'artiste affirmait sa propre identité en sexualisant au féminin la flore et les paysages. Cette grille de lecture lui paraissait toutefois trop étriquée. Il emprunta une interprétation moins érotique et plus philosophique. « Quand on pense, Mona, à notre propre corps, on a généralement l'impression qu'il y a d'un côté un espace, et de l'autre, au sein de cet espace, notre présence qui en serait distincte, une unité dans un environnement. Mais la peinture de Georgia O'Keeffe nous exhorte à ressentir les choses autrement. Chez elle, les éléments du monde se fondent en éléments anatomiques, les éléments anatomiques en éléments abstraits, les éléments abstraits en éléments du monde, et ainsi de suite. » C'est comme si tout était pris dans une boucle, un entremêlement indissociable. Est-ce que tu serais capable de dire la forme dominante dans ce tableau ? J'hésite entre la ligne droite et la courbe, ironisa Mona qui trouvait la question trop facile. Mais je crois que je vais plutôt opter pour la courbe. Oui, il y a partout des courbes qui partent dans un sens et d'autres qui partent dans une direction opposée, des contre-courbes. Ce jeu formel des courbes et des contre-courbes constitue une parfaite matérialisation de la fluidité. On pourrait observer cela au premier degré et considérer que c'est l'expression poussée à son comble de la liquidité de l'eau ou des variations aériennes du ciel et des masses de vapeur qui y flottent, s'y étirent et s'y déchirent, s'y recombinent. Georgia O'Keeffe était très attentive à ces phénomènes atmosphériques. Mais on doit aller plus loin, je crois. Cette fluidité, à ses yeux, c'est celle de la nature même du cosmos. C'est le flux qui unit tous les corps de l'univers. Il n'y a pas d'un côté les corps biologiques de l'être humain et de l'autre les corps minéraux de la montagne et d'un lac. Ils sont pris dans un même circuit. Il est normal, dès lors, que l'on perçoive des muqueuses, des membres, des sensations épidermiques diluées dans ce paysage. Oui, et même, Dadé, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a des blessures. Quand on comprend que ce paysage, c'est aussi une espèce de peau, on peut vraiment imaginer qu'il saigne. Elle marqua un long temps. Ah, je me trompe sûrement. Moi, je pense que tu ne te trompes pas du tout, Mona. Pas du tout. Tu as tout compris à la leçon de Georgia O'Keeffe. Elle nous dit que le monde est une chair. Sans en dire davantage, parce qu'il ne voulait pas créer de confusion dans l'esprit de Mona, Henri songea à Merleau-Ponty, le philosophe de la phénoménologie. C'était lui qui parlait de la chair du monde, ou encore de la chair universelle du monde. Il expliquait non seulement que la perception humaine sent le ciel, la montagne et le lac, mais mieux encore, il ajoutait que le ciel, la montagne et le lac, parce qu'ils sont chairs, sentent à leur tour l'humain, dont la perception les pénètre. Et puis, brusquement, Mona leva les bras. Un afflux de sang avait ravivé ses petites pommettes et ses cheveux paraissaient s'être dressés sur la tête, électrifiés par une révélation. Car l'enfant venait de déceler une infime nuance de vert quasi imperceptible dans le flot des couleurs chaudes de la toile, qui lui rappela les arbres qu'elle avait regardés 2 heures plus tôt. Où s'en vont les teintes de la vie une fois qu'elles ont disparu? Elle avait désormais la réponse à cette énigme. « Dadé, le paradis des couleurs, il est là. Je l'ai trouvé. Il est dans la peinture. »